Vous écoutez France Culture.
Oui, il aime beaucoup l'espace.
Tu sais qu'ils ont lancé un autre satellite aujourd'hui?
Oui, je l'ai vu à la télévision. Je suis restée à la maison parce que j'étais malade.
Il paraît qu'ils vont pouvoir diffuser des émissions de radio et de télé à travers le monde entier.
Je parie que les Russes peuvent le faire.
Non, ils préfèrent mettre des bombes dans leurs satellites.
C'est vrai?
Benoît Lagane,
Eric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 15.
HBO, la série autrement.
Dans l'émission précédente, nous avons abordé le cas de la sitcom, genre télévisuel, dont l'évolution a suivi celle de la société. Alors, aujourd'hui, donc, les dramas, les séries dites sérieuses, elles ont suivi la même trajectoire. Et nous allons voir que dans les années 80, un endroit inédit pour elles va s'inventer. Ce soir, donc, nous allons parler d'HBO. Derrière cet acronyme de trois lettres se cache une chaîne qui va tout simplement changer la face de la fiction télé. En tout cas, la perception qu'en a le public. Why don't you join the group? It's better than being a party poop. Obligato, pizzicato, Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. Les séries d'HBO, vous en connaissez forcément quelques-unes, et il y a bien sûr les incontournables, les Sopranos, Six Feet Under. Nous reviendrons en particulier dans quelques jours dans un épisode spécial sur ces deux séries. Mais les séries HBO, c'est aussi des séries à forte couleur historique, Banan Brothers, Deadwood, Rome, ou des séries choc comme la violente Oz ou sexy comme Dream On ou Sex and the City. Mais il faut savoir que les séries HBO ne se résument pas qu'à ça. C'est tout un ensemble d'œuvres diverses et variées qui ont toutes contribué à la justification du fameux slogan de la chaîne, Eric. It's not TV, it's HBO.
Ce n'est pas de la télé, c'est HBO. Slogan que Canal+ a repris quelques années plus tard en France, car à n'en pas douter, Canal s'est bien inspiré de ce modèle américain. Des films en exclusivité, des matchs de boxe, ça vous rappelle rien,
Eric? Je sais pas, Canal+, par exemple.
Oui, mais c'est surtout HBO bien avant.
Alors, on est allé voir quelqu'un qui va nous parler d'HBO. C'est Thomas Schmitt. Il est universitaire, il est aussi producteur de documentaires, et il a eu l'occasion de travailler sur la chaîne à péage américaine dans le cadre de sa thèse consacrée au modèle de Canal+, qui découle bien sûr de HBO. On l'écoute.
La première grosse expérience de télévision cryptée, c'est 1964, Los Angeles et San Francisco. C'est l'été 64, ça va durer jusqu'en novembre. C'est une chaîne qui a été lancée par Skiatron Electronics. On appelait ça Subscribe TV, un truc comme ça, enfin la télévision d'abonnés. Et la chaîne a eu une existence en environ 6 mois. Elle s'est arrêtée le 9 novembre 1964, après un référendum qui a lieu le 3 novembre en Californie. Un référendum sur êtes-vous pour ou contre la télévision payante. Et le résultat, ça a été non. Il y a eu deux fois plus de non que de oui à ce référendum. Et ce référendum a été institué parce qu'il y a eu des pétitions dès que la télévision payante s'est mise en place au nom de problèmes de, je dirais, démocratie, c'est-à-dire s'il faut payer pour avoir la télévision, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont, exclus de la consommation de la télévision. Et puis derrière ça, Hollywood, qui a fait un gros lobbying qui a eu une grosse peur de la déferlante de la télévision à ce moment-là, et en se disant ça va vraiment concurrencer notre spectacle en salle.
You're watching HBO now 24 hours on weekends.
Il va falloir attendre 8 ans après pour que HBO en 72 véritablement démarre de manière très light en Pennsylvanie, en fait. Ça va prendre un petit peu de temps. il va falloir 5 ans pour qu'elle trouve son équilibre. Donc c'est vraiment en 1977 qu'elle commence à devenir une chaîne qui compte. Ce qui est intéressant aussi dans son... Ce qui va faire en sorte qu'elle va basculer d'une chaîne encore un peu expérimentale en 1972-1974, enfin, il y a trois points. Une, l'évolution de la réglementation sur la télévision par câble, qui va petit à petit permettre effectivement à la télévision payante d'exister de manière légale. Deuxièmement, un truc assez drôle, c'est que elle a réussi à se faire connaître et à avoir pas mal de données à partir de 1974, à partir de la crise de pétrolière, parce que le gouvernement américain va inciter en fait les Américains à ne plus utiliser leurs voitures pour faire des économies d'essence. HBO va proposer dans l'année 1974 des week-ends sans essence, samedi et dimanche sans essence, avec des espèces de, je crois qu'ils appelaient ça les abonnements plantureux ou les week-ends plantureux devant la télé plutôt que d'utiliser leur bagnole. Donc HBO se fait comme ça. Et puis évidemment, après, techniquement, ça va être l'utilisation du satellite qui va permettre effectivement d'arroser tous les États-Unis plutôt que d'aller démarcher câble-distributeur par câble-distributeur, techniquement de trouver des diffusions zone par zone. Le satellite, à partir de 1975, va permettre vraiment à HBO de se répandre, de se diffuser ses programmes de manière large.
This is Home Box Office. Next action-packed double feature Friday begins with Steven Seagal in March for Death.
La télévision payante, c'est un nouveau choix possible des programmes à la télévision. Et de l'autre côté, cette peur, effectivement, d'une privatisation de la télévision qui peut éventuellement causer des problèmes en termes politiques, démocratiques, d'accès à un certain type de programme. Voilà.
At 10, it's a premiere episode of Dream On.
Really?
And at 10:30, catch the season premiere of Tales from the Crypt.
Bon appétit!
It's a Saturday that could only happen here, because Saturday night is opening night on HBO. Get it while it's hot.
Alors, de sa naissance jusqu'aux années 60, la télévision américaine, elle est longtemps restée une chasse gardée des grands networks, hein, ceux qu'on appelait les Big Three, les trois grandes chaînes. Et tout ça va voler en éclats grâce à HBO, mais plus généralement grâce au câble. Alors, soyons clairs, au début, les grandes chaînes ne croient pas du tout à l'avènement de ce câble et de ces chaînes parallèles. Bien sûr, aujourd'hui, les grandes chaînes ne rigolent plus, puisque le câble occupe près de 50% du temps d'antenne américain. Les networks sont en train de disparaître plus ou moins, elles ont encore quelques années devant elles. Et c'est vrai que chaque année, le câble, grâce à ses séries notamment innovantes, progresse toujours et encore.
Alors on peut peut-être expliquer en quelques mots la structure du câble américain. On a deux types de chaînes du câble, le câble basique, qui regroupe des chaînes de télé disponibles par bouquet et qui diffuse des séries comme pour les networks coupés par la publicité.
Et par exemple, The Shield, hein, The Shield qui est une série complètement innovante, mais qui est quand même découpée en actes avec des pubs.
Et diffusée sur FX. Et puis vous avez des chaînes dites premium, des chaînes à péage comme Showtime ou HBO, comme Canal+ en France, où là il n'y a pas de pub. Et ces séries donc peuvent raconter des histoires à un rythme particulier. Il suffit de regarder Oz ou Les Sopranos pour voir bien évidemment la différence. Ces chaînes du câble, même si elles cherchent des fortes audiences, proposent des contenus différents en termes de langage, de situation et de thématique. Une situation qui va mener, selon la formule de McLuhan, à un hyper-choix. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus un public, mais des publics, chaque chaîne cherchant en gros son cœur de cible.
Et donc globalement, les chaînes peuvent aller plus loin dans les thèmes traités. Et c'est vrai que c'est des séries à ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont intéressantes.
Eric, quand HBO se décide de se lancer dans la production de séries télé, elle doit chercher une niche et surtout marquer sa différence. Et c'est avec sa première série marquante, Le Voyageur, qu'HBO rentre dans l'univers des séries télé.
En 83, on peut le dire quand même.
Voilà, et elle décide de reprendre un genre historique des débuts de la télé, la fameuse anthologie, hein, qui était le genre roi dans les années 50, mais en la dynamitant à sa manière. Elle diffuse donc cette série qui présente chaque semaine une histoire différente, introduite non plus, comme dans les années 50, par un hôte élégant, mais par un type, un autostoppeur en jean. La marque de cette série, c'est surtout qu'elle flirte, certes du côté du fantastique, mais elle marque sa différence en multipliant les scènes un petit peu sexy. Alors, Le Voyageur n'est pas la seule anthologie qui va permettre de faire entrer HBO plus encore dans le monde de la série télé. Il y a surtout aussi une anthologie d'horreur, Les Contes de la Crypte, adaptée d'un comics. Donc cette série apparaît en 1989. Et là, ce n'est plus un autostoppeur, ce n'est plus un hôte élégant, mais c'est une espèce de marionnette, une sorte de momie. Mais la série qui va vraiment permettre à HBO de construire son image du diffuseur de séries très originales, c'est bien Dream On, une série humoristique créée par un trio de créateurs que l'on retrouvera plus tard, les créateurs de Friends, et réalisée par...
Les premiers épisodes, John Landis, c'est lui qui a l'idée de se servir des fameux stock shots en noir et blanc. L'idée, c'est que le studio voulait réutiliser les grandes anthologies en noir et blanc des années 40-50. Et lui, il a l'idée de cette série où le héros a trop regardé la télévision. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense, façon un peu bulle BD. Et quand il pense, on voit des extraits en noir et blanc. C'est ces fameux séries où on voit Ronald Reagan, on voit énormément d'acteurs des années 50 dans des rôles un petit peu ridicules, des péplums, des westerns. Et ça donne vraiment un côté très savoureux à cette série.
Alors, le basculement, je dis, il y a un basculement, il y a une accélération, en fait, de cet investissement de HBO dans la série américaine. Mais très vite, ils comprennent deux choses. Un, qu'une télévision payante, si elle ne produit pas des programmes en propre, finalement, elle manque de vie. Elle ne fait qu'être un diffuseur. Elle manque d'identité. Et finalement, le téléspectateur, l'abonné, peut choisir entre le cinéma ou la télévision, enfin le cinéma par la télévision. Mais la télévision, à ce moment-là, n'est vraiment qu'un pur diffuseur, qu'un pur canal. Donc, c'est une télévision vraiment différente, quand même, parce que les abonnés aussi cherchent de la différence. Ils cherchent de la différence, on va dire, réellement par le programme. Et puis, on sait bien que dans l'abonnement à une télévision payante, il y a l'idée d'appartenir à un club, de se différencier soi-même. Pour ça, c'est Pierre Bourdieu, la distinction. Quand on consomme un objet, on consomme à la fois l'objet, mais on consomme le regard que peuvent porter les autres sur notre propre consommation. Donc, c'est une façon de se distinguer. Donc, il y a, je dirais, des vrais fondements de la consommation, à la fois sur le contenu qui est différent et sur un sentiment de se comporter différemment en s'abonnant.
Next on HBO. A mob boss is on trial for murder, and his attorney can help in more ways than one. Danny Aiello stars in Power of Attorney. It's not TV, it's HBO. Next.
Le conflit avec Hollywood, la peur d'Hollywood des années 60-70, se traduit dans le fait de cette possibilité d'une dépendance de HBO à l'égard d'Hollywood. Donc, pour compenser cette possible dépendance, vient à l'idée des dirigeants de HBO de produire des programmes en propre qui peuvent d'une certaine manière leur garantir un peu de liberté et par rapport à Hollywood.
Oz. That's the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary.
Alors HBO a tellement compris le principe que le club dont parle Thomas Schmidt, il pèse aujourd'hui près de 30 millions d'abonnés. HBO a fait de ses séries télé un argument d'abonnement majeur. Le message, c'est quoi? On ne peut plus clair. Nos séries, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Donc venez vous abonner chez HBO. Et pourquoi ces séries, on les voit nulle part ailleurs? C'est parce qu'elles sont confiées, par exemple, généralement à des auteurs qui vont prendre ces séries et les emmener jusqu'au bout. Je pense à, bien sûr, à
David Chase.
Ou Alan Ball, le Six Thunder. Voilà. Donc, artistiquement, c'est vrai qu'au fil de toutes ces séries, HBO surprend par un rythme plus lent, par des photos généralement extrêmement soignées, souvent avec des opérateurs venant du cinéma. Et puis, les constructions sont vraiment différentes. On n'est pas du tout dans les actes à cause de la pub qui n'est pas là. Et donc, quand HBO dit c'est pas de la télé, c'est HBO, je pense qu'elle a raison.
Alors c'est vraiment le passage des années 90 aux années 2000 qui va marquer l'apogée des séries HBO. La chaîne APH domine totalement la production américaine comme jamais et va asseoir une belle réputation grâce à plusieurs séries qui seront à la fois des succès critiques mais aussi des succès publics.
Faut savoir que les Sopranos vont aller jusqu'à capter près de 13 millions de téléspectateurs. Pour une chaîne payante du câble, c'est pas anodin. Ça veut simplement dire que là, ils ont la recette hein, pour faire venir les gens. Puis en plus, bon, la presse est dithyrambique. Mais c'est vrai que le meilleur exemple peut-être de série qui a eu un vrai succès critique et puis un public cible qui est venu la regarder, c'est Oz, hein, en 97, série OVNI, hein, plongée dans un univers assez particulier, un bagne expérimental. Alors Fontana, là, il signe une œuvre où se bousculent des références un peu particulières, Orwell, Malcolm X, Foucault. On n'est pas dans la série classique, hein, alors le traitement de la violence hyper réaliste, ça nous met un coup. Et puis vraiment des histoires hors normes, très théâtralisées. Et là, on voit la patte de Tom Fontana, le dramaturge. Donc c'est vrai qu'avec cette série-là, HBO frappe un grand coup. Et là, plus personne ne peut dire les séries d'HBO, c'est les mêmes que la télé classique.
Oz is retro. Oz is retribution. You want to punish a man? Separate him from his family. Separate him from himself. Cage him up with his own kind.
Alors parfois on pense à tort que HBO va mettre le pied à l'étrier à des auteurs. Ces auteurs, Tom Fontana, il vient pas de nulle part. Il a quand même fait ses classes sur les networks. On le voit dans Central Square, on le voit dans Homicide.
Tout comme David Chase, hein, venait de la télé classique. Mais justement, à chaque fois, ces personnages-là, ils ont voulu aller un petit peu au-delà de ce qu'on leur proposait, du formatage de la série télé des 20 dernières années.
Alors, un autre exemple parfait pour illustrer cette question-là, c'est Sex and the City et Darren Star. Darren Star, qui est quand même très populaire parce qu'il a travaillé sur Beverly Hills et Melrose Place, des séries d'Aaron Spelling pour les networks, et il a envie d'aller plus loin, et donc il propose à HBO Sex and the City,
adapté d'un livre. Hein,
de la chroniqueuse Candace Bushnell du New York Observer, qui deviendra pour la fiction Carrie Bradshaw. Alors, pas la peine de vous parler plus longuement du concept de cette série, qui en plus a été adaptée au cinéma, il est sorti au printemps dernier. Cette série, comme toutes les productions HBO, s'amuse à distiller, bien évidemment, des dialogues crus, quelques scènes sexy, ça c'est la marque HBO. Alors, c'est une série donc qui va aussi apporter partout dans le monde une nouvelle image de New York, dans la lignée de celle véhiculée par le cinéaste Woody Allen. Darren Star revendique haut et fort l'influence de Woody Allen, qui est son réalisateur préféré.
En fait, New York, c'est quasiment un personnage principal de la série. Darren Star, en fait, quand il adapte le livre, lui, ce qu'il veut, c'est tourner dans New York, mais tourner dans les véritables restaurants, les véritables lieux branchés. Il veut pas tourner en studio à Los Angeles et puis avoir un ou deux restaurants. Il veut vraiment la couleur de New York et il va l'avoir. Et tout ça pour dire que toutes ces séries HBO, souvent les auteurs obtiennent effectivement un petit peu plus que ce qui est fait normalement. Ça tire ces séries HBO vers le haut. Et puis du coup, bah, toute la production télé, elle, est obligée aussi de réagir. Et donc, ça va tirer l'ensemble des fictions télé vers le haut.
For 2 weeks, they snuggled, went to romantic restaurants, had wonderful sex and shared their most intimate secrets.
Les networks américains plus classiques ont dû, pour retrouver du souffle face aux télévisions du câble en général, ont dû trouver des ressources propres. Et n'ayant pas tellement cette ressource cinéma, il fallait bien qu'ils se repuisent à leur source de la télévision feuilletonnante, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Donc d'une certaine manière, quand même, HBO va pousser aussi les autres chaînes à faire autre chose un peu. Et inversement, les autres chaînes faisant autre chose, bah, par contre-coup, HBO a dû aller encore plus loin, prendre encore plus de risques. C'est le côté assez positif, finalement, là, pour le coup de la concurrence. C'est qu'à un moment donné, c'est des coups de ping-pong pour finalement faire évoluer un genre vers des œuvres plus approfondies, plus innovantes, prenant plus de risques, bon, sachant que ces œuvres, elles sont sélectionnées et qu'elles correspondent quand même, je dirais, à quelque chose sur le marché.
Thomas Schmitt n'est pas seulement universitaire, il est également producteur de documentaires.
Il a produit notamment le film de Sandrine Bonner, hein, elle s'appelle Sabine.
Et oui, alors nous avons recueilli son avis de producteur sur la sagacité du regard porté par les séries HBO sur la société américaine.
Travailler à produire la fiction française dans le contexte français actuel m'intéresse, mais pas du tout, parce que les contraintes sont extrêmement fortes et que la réalité du monde est extrêmement lointaine. Ne serait-ce que pour des histoires de « il ne faut pas voir les marques »,« il ne faut pas voir les marques » effectivement dans les films de fiction françaises. Il y a un côté absurde, parce qu'il suffit d'aller dans la rue et puis on en voit partout. Mais ce truc-là, déjà, édulcore toute une partie de la fiction qu'on peut proposer en France. Donc, effectivement, à contrario, j'ai le sentiment, comme ça, que les Américains, par rapport à la fiction en général, ont un lien particulier qui fait qu'il y a des choses... pour dénoncer effectivement des situations sociales, ils vont tendance à passer par la fiction, je dirais, de manière plus évidente que par du documentaire. Alors, il y a de très bons documentaristes américains, mais j'ai l'impression que dans la fiction, effectivement, ils interrogent vraiment le monde. Donc, alors, là, pour le coup, le regard du producteur de films documentaires me fait dire qu'effectivement, si on a la liberté d'utiliser la fiction pour... vraiment parler du monde, moi ça m'intéresse. First new message. Brian, it's David D. Collin. I just want to let you know that it's not going to go further on Tough Zone. They didn't think you were right for it. But here's the good news. There's this other movie with Meryl Streep and Uma Thurman that I think you're perfect for, and I have an audition for you. It's called Prime. So give me a call and I'll give you all the details. Talk to you later. Take me out to the ball game. Out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes, you're out at the
Alors, il ne faut pas penser que HBO réussit à chaque fois, hein. Il y a des séries parfois loupées. Il n'empêche qu'elle signera de nombreux bijoux. Je suppose que vous en avez plein en tête, Eric.
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que à chaque fois, il y a un pari. Donc la chaîne, effectivement, va plus loin. Donc forcément, il y a aussi ce risque de se casser la figure. Je pense à Carnival, par exemple, hein. Série à l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis, mais qui mélange un peu des influences très diverses.
C'est pas inintéressant au niveau plastique, mais au niveau de l'histoire, ça part un petit peu dans tous les sens.
Ça part un peu dans tous les sens. Mmh. Bon, nouveau risque, K Street, par exemple, hein, série de Soderbergh et George Clooney, où on mélange des influences, on va dire, fictionnelles, et puis la réalité du monde des cabinets de lobbying de Washington.
Ça ne marche pas, mais c'est pourtant génial.
Oui, et là, en l'occurrence, c'est produit un petit peu dans cette optique. On ne sait pas s'il va y avoir 200, 500 épisodes, il n'y en a que 10. Mais l'idée, c'est quand même de faire du bruit et de dire ça, vous ne le retrouverez jamais ailleurs. Donc si c'est sur HBO, ce n'est pas de la télé. Et là, on est complètement dans le slogan. Je pense par exemple à The Wire, hein, qui est une série qui va quand même durer 5 saisons, qui est plus de 80 heures de fiction, mais globalement, qui n'est pas une série grand public, mais qui va quand même être une des grandes marques de fabrique de HBO.
Alors, parmi les marques de fabrique de HBO, il y a aussi les téléfilms unitaires historiques. Ils en ont produit beaucoup. Ces films unitaires en costume très documentés vont permettre aussi à HBO de créer aussi des mini-séries. Alors, dans les mini-séries prestigieuses, il y a Band of Brothers, produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, qui est une sorte de Soldat Ryan pour la télé en 10 fois une heure.
Et d'ailleurs, Spielberg est en train de tourner la suite qui se passera dans le Pacifique.
Mais c'est aussi Rome, qui est la série la plus coûteuse pour HBO, produite avec le soutien de la BBC.
Oui, on parle de 100 millions de dollars la saison, mm-hmm. Ça commence à faire assez cher.
Cette série qui retrace, rappelons-le, les événements qui mènent à la chute de la République et à l'avènement d'Empire romain. 400 years after the last king was driven from the city, the Republic of Rome rules many nations, but cannot rule itself. The city is constantly roiled by conflict between the common people
and then ability.
Donc le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, mais de s'y maintenir, et il n'en reste pas moins que HBO continue d'être un diffuseur majeur. Simplement, ces séries n'attirent plus comme avant, et puis surtout, tout au long des années 2000, elle va devoir lutter contre des dizaines de fictions venant de chaînes concurrentes, des chaînes du câble, avides elles aussi de reconnaissance. On parlait tout à l'heure de FX, qui lance des séries coup de poing comme The Shield, ou alors la très plastique Nip Tuck, série trash, au concept tellement fort qu'elle en devient, moi, personnellement, à mon goût, assez ridicule, mais qui oblige HBO à aller encore plus loin.
Il y a aussi des séries de Showtime. Showtime, c'est l'ennemi juré de HBO, parce que c'est l'autre chaîne câblée qui peut aller très très loin dans ses fictions. Donc, Weeds, effectivement, a fait beaucoup de mal aux séries HBO. Sleeper Cell, série sur le terrorisme aussi, série très fine. La chose à dire par rapport à ce match entre HBO et puis les autres chaînes câblées, c'est pas tant une question d'audience, c'est surtout aussi une question d'image et de résonance médiatique. C'est vrai qu'avant, les séries qui faisaient ce qu'on appelle communément le buzz, donc cet écho médiatique, c'était essentiellement les séries HBO, et que là, tout au long de ces années 2000, les gens commencent à dire, tiens, il y a aussi ce truc sur une autre chaîne, sur Showtime, sur FX. Ce qui se déplace surtout, c'est le côté branché, c'est le côté pointu des séries.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
À propos de Showtime, il faut voir que au début, elle se place surtout sur des séries très ciblées, notamment en direction de la communauté homosexuelle, avec L-Word, avec Queer as Folk, ouais. Et que récemment, on voit bien qu'elle marche de plus en plus sur les plates-bandes de HBO, en produisant Dexter avec un comédien qui était un des héros de Six Feet Under, ou encore en faisant Brotherhood, qui s'intéresse au milieu mafieux, et on pense forcément aux Sopranos.
Gently down the stream, Marilyn. God damn it! Row, row, row your boat gently down the stream, Marilyn, Marilyn, Marilyn. Life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream.
Alors c'est vrai que HBO ne domine plus outrageusement la fiction américaine en termes d'innovation, mais bon, elle a pas dit son dernier mot non plus. Déjà, ces derniers mois, elle a vu l'arrivée d'une nouvelle directrice de la fiction, donc je pense qu'il va y avoir une remise à plat de certains concepts. Et puis bon, ils ont la chance aussi d'arriver dans un calendrier favorable. Je pense à Alan Ball, dont on annonçait la nouvelle série depuis quand même pas mal de temps. Cette série, elle va arriver là à l'antenne, ça s'appelle True Blood.
Des histoires de vampires.
Voilà, exactement. Et puis je pense aussi à la mini-série de David Simon, donc le créateur de The Wire, qui là adapte un roman choc sur la guerre en Irak. Et ça va passer cet été, ça a été tourné en Afrique du Sud, tournage secret, et visiblement une série qui va faire vraiment parler d'elle, et c'est bien on va dire, la raison d'être des HBO, c'est-à-dire faire du buzz autour de ces séries.
Parmi ces séries nouvelles, il y a Tell Me You Love Me.
Oui, là, on parle des séries actuelles qui passent à l'antenne. Donc, effectivement, qui sont moins, attirent moins de gens, mais n'en sont pas moins sans. Tell Me You Love Me, c'est une série très sensible, filmée un petit peu à hauteur d'hommes, sur des relations entre des hommes et des femmes. Et c'est très fin. Et c'est vrai qu'HBO aussi est sorti un petit peu d'une veine, je dirais, assez sensationnaliste pour aller vers quelque chose de plus humain. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas. Mais on le voit aussi, par exemple, avec In Treatment.
Une série quotidienne.
Voilà, une série quotidienne avec
Gabriel. C'est le plus bel la vie de HBO.
Gabriel Byrne en psy qui reçoit chaque jour un patient différent, et semaine après semaine on voit le patient revenir. Donc on voit que HBO est sorti un petit peu d'un certain type de série choc et qui a allé très loin dans les thèmes, qu'on est devenu plus intimiste, et HBO risque là un petit peu de changer de direction et de retourner à ses premiers amours pour contre-attaquer.
« C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes, une émission de Benoît Lagan et Eric Véra.
Prise de son, Xavier Atto.
Mixage, Pierre Mine.
Réalisation, Lionel Quentin.
Des liens, des biblios, des références, de DVD sur notre site web franceculture.com. Et puis n'hésitez pas à prolonger la découverte des séries télé dans la revue Générique, le magazine de la culture série.
Demain, les années 90, l'âge adulte.
Bonne nuit.
That's not about what, it's all about who. You know exactly what you're supposed to do. Gonna fight like Robert Mitchum with a gun. Gonna ride like a cowboy in the sun.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.